Mais qu'est-ce que c'est ça?
Hé, hey, mais qu'est-ce? Je comprends rien.
Oh, ça sent donc bien drôle. Dossier bizarre.
Bonjour tout le monde, c'est la 17e épisode.
Ben oui.
Ça va trop vite, Tristan.
On a du sujet, on en a des sujets en masse.
Ça finit pas, puis les gens qui commencent à interagir de plus en plus avec nous par Twitter, par la page Facebook de Dossier Bizarre. Alors, on a de plus en plus de sujets, puis plus on en fait, plus on a de suggestions, plus on a de sujets qui arrivent. Alors, ça finira jamais, finalement.
Ben non, exactement.
Hey, Jason Lévesque avec vous, Tristan Brunet-Dupont, comment vas-tu?
Ben oui, bonjour, ça va super bien, et toi?
Ben oui, ça va bien. Ça
merci.
Va bien, c'est vendredi.
Ben oui, merci de nous suivre encore une fois. Merci de nous écouter, de partager des trucs sur Facebook. Quand je vous pas, nous autres, on aime bien ça avoir vos commentaires et tout. Ça nous encourage, ça nous motive à poursuivre cette émission d'aussi bizarre.
Ben oui, puis ça va faire un peu arrogant, mais bonjour à nos très nombreux fans en Europe.
Oui,
je vais jamais dire ça un jour.
Ben oui, moi non plus.
Ben bonjour.
Effectivement, toute la francophonie en fait, à international, c'est Spotify, c'est ça, c'est que ça franchit les frontières.
Ah oui, absolument.
Et c'est formidable.
Donc, très, très nombreux fans en Europe, bonjour.
Ben oui.
Hey, que je suis content de pouvoir dire ça.
Aujourd'hui, on aborde
un sujet. Oui, on parle de quoi, monsieur?
J'avais
c'est toi qui présente un sujet cette semaine.
J'avais hâte de parler de ce sujet-là, mais ça prenait énormément de temps quand même, ben plus de temps que d'habitude, parce que bon, les pyramides.
Ouais, on va dire le sujet, puis on va dire pourquoi ça a pris plus de temps.
Parce qu'il y a des gens qui ont étudié toute leur
ben
vie
voilà.
Ce sujet-là,
c'est
les
quand
pyramides.
Même un sujet qui est bien connu, donc oui. Si on veut réussir à intéresser le monde, il faut aller dans une direction qui est peut-être un peu différente.
Non, c'est ça, puis on va y aller là, en mode, tu sais, il y a tellement d'informations sur les pyramides, on parle ici de 3000 ans de l'Égypte ancienne, 3000 ans d'existence, un empire qui a vécu pendant une continuité de 3000 ans, donc il y a des choses
y a
à dire.
Ça en est passé. Enfin, il y avait des intrigues politiques à cette époque-là.
Oui.
Puis, ça me fait rire tout le temps quand on arrive avec des sujets comme ça. Tu as parlé de Stonehenge, mm-hmm. On parle des pyramides. On a la conception, c'est malheureux, mais comme personne en 2019, souvent on va s'imaginer ces gens-là comme des un peu attardés, pas capables de rien faire. Puis, les pyramides, ça se peut pas qu'ils aient fait ça, c'est impossible, parce que c'était une gang d'attardés qui n'avaient pas de technologie. Mais ils faisaient ce qu'il y avait avec les outils qui étaient disponibles.
Exactement.
À l'époque. Comme dans 2000 ans, ils vont regarder ce qu'on faisait en 2019, ils vont dire, hey, cette gang d'attardés-là, ils ont quand même fait des affaires pas si pires. Et c'est comme ça. Donc, on a toujours la conception que, étant donné que c'est 2000, 3000, 4000 ans, que les gens avaient deux pieds dans la même bottine, les deux doigts dans le nez, puis qu'ils ne savaient pas rien faire, mais ils étaient quand même pas mal plus débrouillards qu'on peut penser.
Non, c'est ça. Exactement. On parle de l'Égypte à l'Antiquité. On n'est pas à l'époque préhistorique. Donc, on a des fois la pensée que ça fait des milliers d'années, les gens étaient vraiment, comme tu le dis, stupides, alors qu'on était au néolithique.
Ouais.
Donc, c'était des gens comme toi puis moi, au niveau du développement du cerveau humain et tout. On n'est pas si loin dans l'histoire de l'évolution de l'humanité. Là.
C'est la technologie qui n'avait pas évolué encore au point où elle est rendue aujourd'hui, mais l'intelligence, la débrouillardise, l'ingénierie, dans le cerveau de l'homme, était déjà présent.
Exactement. Depuis l'Homo sapiens sapiens, bon, on ne fera pas les cours de préhistoire.
Non, mais on développait des outils.
C'est ça,
il y avait
exact.
Un besoin, on trouvait une solution au besoin.
C'est le développement technologique et scientifique qui a permis l'élaboration de notre civilisation actuelle. Mais
absolument.
Pour le développement du cerveau, depuis l'Homo sapiens sapiens, on est les mêmes humains.
C'était pas des imbéciles.
Non, exactement. Alors, on commence. Le caractère le plus remarquable de l'Égypte ancienne est sa prodigieuse continuité, comme on dit, car au-delà des mutations territoriale et des bouleversements politiques, cette civilisation a perduré pendant plus de 3 millénaires, fait unique dans l'histoire de l'humanité.
Ben oui, absolument, parce que souvent les empires ils ont eu une période où ils culminent et après ça, il y a une descente, mais eux, le point culminant a duré très longtemps.
Exact. C'est vers le début du néolithique, donc il y a 3000 ans avant Jésus-Christ.
Donc 5000 ans à peu près.
C'est ça. Que des tribus commencent à se rassembler dans la fertile vallée du Nil. Pour aboutir à la constitution de deux royaumes politiquement distincts, mais étroitement liés par une culture commune, la Haute-Égypte au sud et la Basse-Égypte au nord. Le Nil coule du sud vers le nord, d'où ses appellations. Le découpage de l'histoire de l'Égypte maintenant, c'est en grande période et en 31 dynasties.
Oh.
Et là, je vous invite à porter attention au mot « dynastie ». Ça va revenir souvent dans le podcast d'aujourd'hui. C'est vraiment 3000 ans divisés en 31 dynasties. Et il y a une dynastie particulièrement qui a été très, très, très élaborée au niveau de la technologie. C'est durant une dynastie seulement sur les 31 qu'on a bâti les trois grosses pyramides.
Oui, ben c'est ça.
Alors, on y reviendra. Et c'est le prêtre historien Manéthon qui vivait dans l'Égypte du 3e siècle avant notre ère qui a décrit les 3000 ans de l'Égypte sous les 31 dynasties. Donc ça vient de lui. Pyramides d'Égypte, eh bien les pyramides d'Égypte, de tous les vestiges monumentaux que nous ont légués les Égyptiens de l'Antiquité, et notamment les trois grandes pyramides de Gizeh, sont à la fois les plus impressionnantes et les plus emblématiques de cette civilisation. Tombeau des rois, des reines et des grands personnages de l'État, dont l'édification remonte pour la grande majorité à l'Ancien Empire, la forme pyramidale de pierre accueille une ou plusieurs chambres internes reliées par des couloirs. La grande pyramide de Gizeh, construite par Khéops, fait partie de sept merveilles du monde antique et est classée au patrimoine mondial de l'humanité.
Quand on dit les plus impressionnantes, c'est qu'il y en a d'autres.
Oui.
On pense aux pyramides, on pense aux trois pyramides parce que c'est les photos qu'on voit, les cartes postales qu'on reçoit quand quelqu'un y va. Mais il y en a plein d'autres pyramides aussi qui sont beaucoup moins impressionnantes, mais il y en a tout plein dans ce secteur-là.
Et aujourd'hui, on aborde le sujet des pyramides en Égypte.
Oui.
Parce que on pourrait revenir, moi j'ai eu l'idée, je te le propose à l'instant, Jason, de refaire un épisode sur les pyramides en Amérique du Sud.
Oui.
Où là, c'est complètement une autre histoire.
Ben absolument.
Et les pyramides en Chine.
Ah, en Chine!
En Chine aussi. Donc, ces trois lots de pyramides-là, c'est trois histoires différentes.
Mm-hmm.
Donc, on ne peut pas relier ça, ça fait partie de l'histoire de l'humanité et bon, c'est trois dossiers différents.
Okay.
Alors aujourd'hui, on va parler des pyramides en Égypte.
On se concentre en Égypte.
Exactement. Le mastaba.
Hein?
Ça, c'est le mot qui va revenir souvent dans le podcast.
Cool.
Le mastaba, c'est une construction quasi rectangulaire. Ça, on va y aller là, au niveau de l'histoire de la création de la pyramide, d'où ça vient, la pyramide.
Comment on a abouti avec ces grosses pyramides?
C'est ça, exactement. Okay. Donc, tout a commencé.
On commence avec le mastaba.
C'est ça, tout a commencé avec le mastaba. Ça, c'était une construction quasi rectangulaire. C'était la sépulture des souverains de l'Ancien Empire, donc vraiment au tout début là, des Égyptiens, il y a presque 5000 ans donc, et les raisons du passage des mastabas aux pyramides ne sont pas clairement établies, mais on va pouvoir y revenir. On évoque généralement le souhait d'atteindre des hauteurs phénoménales, de plus en plus hautes, mais les premiers mastabas, c'était un étage.
Okay.
Donc c'est une forme de construction, là, on bâtissait bon, bloc par-dessus bloc, un édifice d'un étage où on y installait des tombeaux. Donc, pour des funéraires, des structures funéraires, donc.
Okay.
Et à un moment donné, on a décidé de faire un second étage.
Ah!
Alors là, on a décidé de faire, on va le mettre sur deux étages.
Ben, pourquoi pas?
Et au deuxième étage de ce mastaba, on va installer un deuxième site funéraire. Alors, l'idée est venue, là, le deuxième étage moins large et moins haut que le premier. Et c'est au début de la troisième dynastie, donc vers moins 2700 et moins 2600 avant Jésus-Christ, les mastabas sont devenus des pyramides dites à degrés, constituées de plusieurs étages successifs. Alors, dans ces années-là, on a décidé de faire un troisième étage, puis un quatrième étage.
Et comme on y allait, chaque étage était plus petit que celui en dessous, ça a fini par donner une forme de pyramide.
Exactement. Mais on parlait ici de petites pyramides.
Ben oui, c'est ça, parce qu'on le disait, là, il y a les trois grosses pyramides qu'on voit sur toutes les photos, mais il y en a des petites aussi, là, éparpillées un peu partout autour, qui viennent d'une période avant les grosses pyramides où on a commencé à développer le concept.
Donc les mastabas, c'est vraiment l'édifice original qui a influencé la construction des pyramides, mais le premier édifice de ce genre dans l'histoire des Égyptiens, c'est les mastabas, qui étaient les premiers sites funéraires, les premiers édifices bâtis bloc sur bloc. La première pyramide de ce genre et la plus célèbre de ces pyramides à degrés est la pyramide de Djéser à Saqqara, dont l'architecte était Imhotep.
Ah,
on entend souvent Imhotep.
Ben oui, Imhotep.
Eh bien, Imhotep, c'est lui qui a bâti la première pyramide officielle dans l'histoire de l'Égypte de l'Antiquité, c'était Imhotep. C'est lui qui a décidé de vraiment...
Il est parti d'une mode, lui. Là.
Oui. Toute une mode.
Ben oui.
Imhotep a voulu ériger une pyramide à degrés s'élevant tel un escalier gigantesque vers le ciel afin de symboliser l'ascension du défunt du monde souterrain vers les cieux. On pourrait faire un petit lien ici avec le Stonehenge.
Oui, encore absolument. Une fois. Hein, des constructions impressionnantes qui... était supposé d'aider les âmes à s'élever ou à aller vers l'au-delà, vers la vie, la prochaine vie, peu importe. Souvent, c'était relié aux croyances et c'était souvent très impressionnant sur un point de vue la taille, l'ampleur de la chose. Et on va voir avec les pyramides, j'imagine, parce que comme j'ai dit, j'ai pas trop été fouillé, mais j'imagine que le fait qu'on est arrivé à un point, à un moment donné, que les pyramides sont gigantesques, il y a eu une progression justement vers... De plus en plus gros.
Et ça s'est fait quand même d'une manière assez lente. Là, si on parle de 3 000 ans d'histoire, tout a commencé avec les mastabas. Et là, on y va avec la deuxième étape d'évolution de la pyramide. L'étape suivante de l'évolution des pyramides, donc à degré, fut l'édification par le roi Snéfrou d'une pyramide rhomboïdale.
Ah!
Donc, cette deuxième étape, cette pyramide-là, sur le site de Dachour, c'est le deuxième type de pyramide. La pyramide rhomboïdale est une étape intermédiaire entre la pyramide à degré et la pyramide à face lisse. La pyramide à face lisse, c'est les grosses pyramides.
Oui, ben c'est ça. Pyramide à degré, j'imagine, c'est ça. Tu as parlé d'un escalier, donc ça, c'est qu'il y avait des paliers.
C'est ça, exact. Okay. Les mastabas, c'était des pyramides à degré. Donc, c'est comme un synonyme, une autre manière de le dire. La pyramide rhomboïdale, c'est comme l'intermédiaire entre les mastabas et les pyramides à face lisse.
On commençait à arrondir les coins, j'imagine.
La pyramide rhomboïdale est une pyramide dont les faces lisses constituent une pente à section d'inclinaison décroissante en direction du sommet. Donc, en gros, il y a comme un premier degré et un deuxième degré.
Ah, OK.
Donc, rhomboïdale, ça veut dire que c'est pas en forme d'escalier, c'est vraiment... une première inclination de degré plus à pic et la deuxième inclinaison, c'est plus lent comme degré d'inclinaison. Okay. Donc, on a vraiment une forme un peu comme la première section de la pyramide.
Mais on sent qu'il y a une espèce d'ingénierie qui se développe au fil de ces pyramides-là. On est allé avec celles en étage comme des escaliers parce que c'est ce qu'on était capable de faire à l'époque. Et là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit « Ouais, mais si on fait ça de même, peut-être que ça serait plus cute. » Et là, il y a eu une transition vers la deuxième type, le rhomboïdal.
Et là,
on a continué à évoluer.
C'est ça. Fait intéressant ici, la rhomboïdale, tu le disais, la technologie avançait, mais on n'était pas encore capable de faire un seul degré
seulement...
de la base jusqu'au sommet. C'est pourquoi ça faisait une drôle de forme un peu.
Ouais.
Tu sais, deux versions de degrés dans les rhomboïdales, là, ça n'a pas duré si longtemps. On dit que les non-uniformités de cette pente pourraient s'expliquer par des difficultés architecturales et par l'instabilité de la maçonnerie de la pyramide. Donc.
L'idée n'était pas si bonne.
C'est ça, exactement. Et ces pyramides sont suivies par les pyramides à texte durant la 5e et 6e dynastie. Plus petite et fragile, aujourd'hui en mauvais état de conservation, puis les pyramides de briques de la 12e dynastie. Malgré un parement en pierre, ces pyramides sont généralement en ruine en raison de la fragilité de la brique. Alors, on va y aller maintenant. Alors, voilà, la suite. Ce type de pyramide des rhomboïdales était la dernière étape menant au stade ultime de l'évolution des pyramides d'Égypte vers les fameuses pyramides à face lisse.
Celles qu'on connaît, ben les plus célèbres.
Oui, exactement. Ça s'est passé durant la 4e dynastie. Alors là, ça, c'est l'autre fait très pertinent. Donc, je vais revenir avec ça. La 4e dynastie.
Ouais.
Sur les 31 dynasties, la 4e, c'est 100 ans à peu près. C'est de moins de 2573 à 2454 avant Jésus-Christ. C'est pendant ces 100 années-là on a bâti les trois pyramides.
C'est très rapide.
Oui.
Sur une période de 3000 ans, 100 ans, c'est rien. Là. C'est très court sur la ligne de temps. Mais durant cette période-là, c'est là qu'on a construit les pyramides qu'on connaît aujourd'hui.
C'est ça. Et on parle ici des trois pyramides des pharaons Khéops, Khéphren et Mykérinos, à Gizeh, près du Caire. Alors, on va y aller maintenant avec l'explication de pourquoi la 4e dynastie a réussi, elle, à bâtir des pyramides à face lisse.
C'est qui est arrivé avec cette idée-là?
Alors, la 4e dynastie, premièrement, est fondée par Snéfrou, qui est peut-être le fils de Ouni. On a ici des peut-être, parce que là, c'est l'étude vraiment spécifique de l'Égypte antique. Là,
ça date de quelques milliers d'années. La hiérarchie à l'époque n'était pas nécessairement conservée. Puis c'était peut-être pas aussi conventionnel que ça l'est aujourd'hui socialement non plus.
Non, c'est ça. Elle aurait duré environ un siècle, voyant se succéder au moins 7 rois, dont 4 longs règnes, ceux de Snéfrou, Khéops, Khéphren et Mykérinos. Cette dynastie est passée à la prospérité à la suite de l'érection des plus vastes pyramides construites en Égypte. Son fondateur, Snéfrou, passé à la postérité comme l'archétype du roi juste, aurait entrepris des expéditions lointaines. Alors lui, c'était un aventurier, Snefru, le premier roi de la 4e dynastie.
Il est sorti un peu de l'Égypte pour aller voir ce qui se faisait ailleurs.
Exactement. Il y a eu des expéditions en Nubie, au Liban, et il a érigé des forteresses pour défendre le pays. On sait au moins qu'il a construit successivement 3 vastes pyramides. On parle ici à Meidoum, à Dachour, marquant la transition entre les pyramides à degrés et les pyramides à face lisse. Alors, c'est vraiment à partir de Snefru, 4e dynastie, qu'on a fait la transition. Et son successeur, Khéops.
Oui.
On entend souvent Khéops.
Très, très, oui, c'est ça. C'est un nom qu'on entend souvent quand qui est relié aux pyramides.
C'est ça, parce que c'est la plus haute à ce jour. Khéops, lui, a choisi le plateau de Gizeh pour y ériger sa pyramide, qui est la plus grande, qu'a fait construire un roi égyptien. L'ampleur de cet édifice a laissé de lui l'image d'un souverain mégalomane et tyrannique auprès des auteurs tardifs, à l'inverse de son père. Mais en vérité, il était encore vénéré à la basse époque. C'est pourquoi Khéops, en fait même, on a aussi une information, Khéops semble avoir été le premier à autoriser ses femmes à se faire élever un tel tombeau. Alors là, ici, un côté un peu... On a autorisé ses femmes, donc là, ici, on comprend qu'il avait plusieurs femmes.
Ben, c'est ça, c'est au pluriel.
C'est ça, mais c'est le premier roi égyptien qui a autorisé ses femmes à se faire bâtir des tombeaux.
Elles avaient le droit d'avoir leur propre tombeau en tant que femme, chose qui est quand même assez avant-gardiste à l'époque. Là.
C'est ça. Il est suivi par deux de ses fils, le mal connu Djédéphré, lui, on le connaît moins, on a moins de documentation sur lui, puis Khéphren, qui commandite l'érection d'une vaste pyramide aux côtés de celle de son père Khéops. Le roi suivant, Baka, est mal documenté aussi. On connaît mieux son successeur, Mykérinos, bâtisseur de la 3e pyramide de Gizeh. Alors, c'est vraiment une succession consécutive des fils du père qui bâtissent à leur tour une pyramide pour être à côté de leur père.
Il y en a deux qui n'ont pas été des très grands dirigeants, j'imagine, parce qu'on n'a pas vraiment de documentation. Ils n'ont pas laissé d'héritage aussi marquant que les autres qui ont fait construire des pyramides.
C'était les fils mal aimés de la famille.
Ouais, c'est ça. C'était peut-être c'était peut-être des pas bons. Ils préféraient jouer au PlayStation plutôt que de diriger le pays. Ouais.
C'est exactement. Alors, pour l'instant, Mastaba, 4e dynastie, on commence à avoir installé les bases. On y va peut-être avec une courte pause.
Ben oui, on va prendre une pause. Donc, on sait un peu d'où vient le concept de la pyramide, les premiers balbutiements de ces constructions légendaires, oui, on va le dire. Je suis pas mal sûr qu'il n'y avait pas idée nécessairement qu'en 2019, on serait assis ici en train d'en parler et de les nommer, puis de dire c'est de lui que ça vient. Et on peut encore prendre l'avion demain, si on veut, et aller visiter ces sites-là qui sont encore là. C'est quand même exceptionnel. 5000 ans plus tard, pas sûr qu'ils doutaient que ça arriverait à ça.
Vraiment, vraiment. Non, je les ai jamais vus. Je connais plusieurs personnes qui sont allées et à ce qui paraît, ça vaut la peine d'aller
absolument
voir ces pyramides.
Absolument. On prend une petite pause, Tristan. On revient, on continue, on parle des pyramides. Alors là, vous êtes déjà en à peu près 18 minutes, beaucoup plus éduqués. Hey, ça, c'est notre côté éducatif qui prend le dessus aujourd'hui.
Les dossiers bizarres est une présentation de...
Ce soir, sur les ondes de C'est Noël, ne manquez pas le drame psychologique « Le sapin à les boules ». Le sapin à les boules, la triste histoire d'un père de famille qui sombre lentement dans la folie à cause d'un set de lumière de Noël qui marche pas et de son gros beau-frère un peu nono. C'est Noël, la radio des émotions.
Nous sommes de retour et nous parlons aujourd'hui des pyramides d'Égypte. Et on a parlé un peu de leur origine, Tristan.
Oui,
donc ça a commencé avec des immeubles de forme rectangulaire qu'on a
c'est
dit
ça.
Un deuxième étage serait pas pire. Hey, un troisième étage, un quatrième étage. Et ça a fini par donner une forme plus ou moins pyramidale. Et
exactement,
on a commencé à développer le concept pour arriver aux fameuses 3 pyramides majeures, les 3 plus connues, qui sont non seulement des pyramides, mais la surface, les côtés sont lisses,
oui,
ce qui était une particularité de l'époque.
Exact. Imhotep, on pourrait le rappeler. Imhotep qui est le constructeur là, qui a bâti les
Mastaba.
Celui
qui a imaginé la manière de faire ces pyramides-là.
Et on pourrait rappeler aussi que c'est pendant la 4e dynastie, sur les 31 dynasties de l'Égypte antique, c'est la 4e dynastie, durant ces 100 années-là, où on a érigé les 3 plus grosses pyramides, dont celle de Khéops, qui fait partie de l'une des merveilles du monde. Et on pourrait mentionner vite que pourquoi, durant cette 4e dynastie-là...
Oui, ben c'est ça. Qu'est-ce qui a fait que... Parce que ça a duré beaucoup plus longtemps, le règne de l'Égypte dans ce secteur-là du monde.
Et
c'est dans cette période-là qu'on a fait ces 3 pyramides-là. Mais après ça, on a continué à faire des constructions, mais jamais de cette ampleur-là.
Non, exactement.
Donc, il y a quelque chose de particulier durant la 4e dynastie qui a fait qu'on a pu se permettre de faire ça.
Dans mes recherches, on expliquait que c'était vraiment grâce à une administration structurée. Donc, pendant la 4e dynastie, non seulement l'Empire allait bien, mais on était capable de bâtir les gens. Tu sais, c'était pas juste le roi qui était capable de gérer tout le monde ensemble. On parlait ici de l'administration, de la logistique aussi, les gens qui s'occupaient de la logistique pour bâtir ces trois pyramides-là. Il y avait une organisation qui était impeccable.
Donc, on a décentralisé d'une certaine manière. C'était pas seulement le roi ou l'empereur, peu importe comment on l'appelait à l'époque, le pharaon qui décidait. Il y avait des conseillers, il y avait des gens qui avaient du pouvoir autour de lui. Il déléguait du pouvoir pour permettre de bien fonctionner.
Non, c'est ça. Et tu sais, des fois, on parle de l'Empire romain. Mm-hmm. On peut parler de plein de les Grecs aussi, mais faut pas oublier l'Égypte antique qui, il y a presque 5000 ans, en fait, ont eu une période où c'était extrêmement civilisé. On reste aussi, il y avait de l'esclavage et tout.
Oui,
ça reste très, très loin. Mais pour ce qui est de la capacité de l'humanité à s'organiser pour bâtir des choses phénoménales comme les pyramides, c'est durant ces 100 années-là que, grâce à tout le monde, l'administration, les gens qui s'occupaient de la logistique, la gouvernance, tout était bien mis en place pour réussir à bâtir.
Et c'est ça, pour réussir à bâtir ces trois bâtiments-là en l'espace d'un peu plus de 100 ans, il a fallu que la gestion soit à peu près parfaite parce que c'est phénoménal. On n'a pas construit un cabanon, là. C'est des constructions qui, avec les moyens de l'époque, réussir à faire ça, ça tenait presque du miracle. Pas parce qu'on était, on l'a dit, pas parce qu'on était imbécile, mais parce que les outils développés à l'époque rendaient la chose un peu plus complexe que si on le faisait aujourd'hui. Alors, il a fallu vraiment gérer ça d'une manière absolument exceptionnelle pour venir à bout de faire ces constructions-là en si peu de temps.
Non, c'est ça, c'est exactement ça. Un peu comme, je pense à ça, un peu une comparaison vite, mais dans notre histoire actuelle, on pourrait penser à quand on est allé sur la Lune.
Oui.
T'sais, tout allait tellement bien dans l'exploration spatiale dans les années 1960-70 qu'on est allé sur la Lune. Et on est allé à plusieurs reprises, on a envoyé des capsules spatiales dans l'orbite lunaire et ça paraissait banal.
Oui.
Un peu comme peut-être que pendant la 4e dynastie, ça faisait partie de la réalité à cette époque-là de bâtir des pyramides énormes.
Il y a eu une évolution très rapide ce temps-là, comme tu parles de l'exploration spatiale, qui au début des années 60, c'était impensable d'aller sur la Lune, et que finalement, 10 ans plus tard, on l'a réalisé. Durant ces 10 ans-là, ces 10 années-là, la technologie a fait un bond phénoménal en avant pour permettre de faire ça, justement.
Et après, de la 5e dynastie à la 31e dynastie en Égypte, on a arrêté de bâtir des pyramides aussi grosses parce qu'il y avait des problèmes d'administration, de logistique, de gouvernance, de pauvreté, de famine, de catastrophe, de ci, de ça. Donc, on n'avait jamais le plein potentiel de la civilisation pour bâtir des trucs aussi
gros. Les opportunités ne se présentaient plus comme durant la 4e dynastie, où là, tout était parfait, les astres étaient alignés pour qu'on puisse le faire. Tu parlais de gestion, justement. On a longtemps cru que les pyramides, ça avait été fait sous le joug d'un tyran qui utilisait des esclaves jusqu'à leur mort puis les remplaçait. Et dans les dernières années, on a prouvé, avec des documents qui ont été trouvés, des textes qui ont été traduits, que on gérait les gens qui travaillaient sur les pyramides exactement de la même manière qu'on va gérer des employés d'usine en 2019. On avait une liste d'employés, il y avait des congés, il y avait un salaire, il y avait même des congés de maladie, il y a même des notes qui ont été trouvées comme quoi Bob était pas là hier, il était malade. Il filait pas, il est pas rentré travailler. Alors, on a trouvé des documents comme ça, des logs de c'est un suivi d'employés qui était fait. Ça veut pas dire qu'il était bien traité, ça veut pas dire que c'était pas non plus de l'esclavage, mais on les gérait comme des employés, ces personnes-là qui travaillaient sur les pyramides. Et c'est une preuve de plus que la gestion était particulière pour cette époque-là. On remonte à loin en arrière et on pensait que si on gère ça comme il faut, on va réussir à faire des grandes choses. Et ils l'ont fait.
Un film qui représente bien, d'une manière humoristique, toutes ces images-là. Je vous invite à regarder le film Astérix et Obélix, édition Cléopâtre, réalisé en France, là, ce film-là. Et très, très bon, très, très drôle. Les images sont excellentes. Et c'est justement, on voit ça
exactement. De
manière un peu caricaturale dans le film.
Oui, on devient presque syndiqué à un moment donné. On refuse de travailler. C'est ça. Mais c'est à partir de là, de dire, vraiment, c'était traité comme étant des employés, non pas des esclaves là, qu'on fouettait pour forcer à travailler des 40 heures en ligne. C'était pas comme ça.
Allons-y avec Astérix, on parle d'Astérix.
Ben oui.
Sur le rapprochement astronomique, on a déjà entendu parler.
Oui.
Certains égyptologues comme Selim Hassan ou archéo-astronomes comme Robert Beauval proposent une théorie selon laquelle il existerait une corrélation entre la position et l'orientation des pyramides de Gizeh et la position des étoiles et notamment de la constellation d'Orion. On est situé à un certain angle, à une certaine distance des trois pyramides. Il y a un bel alignement des trois pyramides vis-à-vis la constellation d'Orion, donc la ligne d'étoiles. Et on peut le voir d'ailleurs, moi je suis un peu geek, là, dans Transformers, Revenge, le 2, on en parle justement de ça. On va parler de la pyramide de Khéops.
Oui,
qui est
célèbre.
Oui, la plus célèbre. Alors, elle est sans nul doute la pyramide, justement, la plus célèbre, formant une pyramide carrée de 137 mètres de hauteur.
C'est quelque chose. Là.
Mais initialement, c'était 146 mètres. Elle s'est un peu assez affaissée. C'était donc...
Avec l'âge, on rapetisse.
Oui, c'est ça. Les pyramides aussi. Ça va y prendre une marchette bientôt. Là. Elle était donc plus haute que la basilique Saint-Pierre à Rome.
Oui.
Elle fut édifiée il y a plus de 4500 ans.
Hey, c'est quelque chose.
Sous la 4e dynastie, au centre d'un vaste complexe funéraire se situant à Gizeh, elle est la seule des sept merveilles du monde à l'Antiquité à avoir survécu. Durant des millénaires, elle fut la construction humaine de tous les records, la plus haute, la plus volumineuse et la plus massive. Véritable symbole de tout un pays, ce monument est depuis plus de 4500 ans scruté et étudié à la loupe, sans relâche. Le tombeau, véritable chef-d'œuvre de l'ancien empire, représente la concentration et l'aboutissement de toutes les techniques architecturales mises au point depuis la création de l'architecture monumentale en pierre de taille par Imhotep pour la pyramide de son souverain, Djéser. Toutefois, les nombreuses particularités architectoniques et les exploits atteints en font une pyramide à part qui ne cesse de captiver l'imagination. Alors, toutes les technologies, les techniques d'architecture de Imhotep à l'évolution là, dans les dynasties, bref, c'est un chef-d'œuvre architectural, cette pyramide-là.
On a mis en commun, en fait, c'était l'avancement technologique ultime à cette époque-là, c'est qu'on a pris toutes les connaissances, tous les outils, toutes les techniques connues on parle aussi là, que certains ont sorti un peu de l'Égypte pour aller voir ce qui se faisait ailleurs, donc on a peut-être ramené des techniques également qui a permis d'évoluer, mais en gros, on a mis tout ça en commun pour réussir à faire cette pyramide-là qui, on l'a vu dans l'épisode précédent sur les anciens extraterrestres, les anciens astronautes, on disait, ça se peut pas qu'ils aient fait ça.
C'est ça.
Ça se peut juste pas, c'est les extraterrestres qui sont venus les aider. C'est à ce point impressionnant ce qu'on a réussi à faire pour l'époque. Mais on le sait, ça l'a vraiment été fait à l'époque, par les gens de l'époque, parce que les technologies utilisées existaient et on les a poussées à leurs limites pour cette pyramide-là.
Alors moi, ce que je refais comme lien depuis qu'on fait Dossier Bizarre, Jason, c'est que durant le Néolithique, on a bâti des choses et on était plutôt avancé au niveau technologique et architectural. C'était impressionnant de voir que l'époque de l'Antiquité, donc après la préhistoire, c'est des milliers d'années qui sont extrêmement importants pour l'histoire de l'humanité et le développement vraiment là, des civilisations. C'est incroyable, c'est pertinent. On va y aller avec la petite... On va se diriger vers la conclusion, tranquillement. Oui. Au total, aujourd'hui, en 2019, on a répertorié 123 pyramides en Égypte. Pyramides donc de tous les types. On parlait des mastabas, des tomboïdales et les à surface lisse. Alors, 123 pyramides sont actuellement connues. Les pyramides de plusieurs souverains de l'ancien empire n'ont pas encore pu être localisées, notamment celles de Ouser-Karé, Méréné et Nitocris. De même, des pyramides de Rennes reposent toujours enfouies sous les sables, comme celle de Ankhédzempépi, par exemple, auquel il faut sans doute ajouter quelques pyramides de souverains et reines obscures de la première période intermédiaire. Alors, il y a encore plein de pyramides qu'on n'a pas trouvées.
Non, mais c'est ça, on cherche encore. On explore les pyramides connues, mais on cherche aussi des pyramides qui sont peut-être complètement détruites aussi, puis on essaie de trouver des vestiges. Je sais qu'il y a des tombeaux souterrains aussi qu'on déterre à l'occasion, qui ne sont pas des pyramides nécessairement, mais qui sont des constructions qui ont été enfouies, qui étaient soit sous forme de mastabas, des rectangles, ou des fois même on creusait le sol pour enterrer. Alors, il y a tout plein de constructions comme ça qui sont encore non découvertes de nos jours. Ça rend ça intéressant parce qu'il y a des archéologues qui font encore des nouvelles découvertes là, dans ce secteur-là, alors qu'on pense que on a pas mal tout trouvé ce qu'il y avait à trouver. Il en reste énormément encore là, à déterrer.
C'est exact. Et en 2013, par exemple, c'est une équipe belge qui a découvert la dernière pyramide connue là, de Khé à Louxor en 2013. Ça fait 6 ans de ça. On en a découvert une autre pyramide. Alors, 123 pyramides aujourd'hui en Égypte. Et on parle ici des différents types. Là, les pyramides à degrés.
Celles qui ressemblent à des escaliers, dans le fond.
Mastaba, les mastabas. La pyramide rhomboïdale, Il y en a moins de ceux-là parce que c'est vraiment plus court, mais il y en a dans
c'est un peu comme le préfini des maisons. On s'est rendu compte vite. C'est pas bien, bien beau finalement, mais on a changé de technique.
Exactement. Et la pyramide à faceless, là, donc ces trois types de pyramides, on en font partie des 123 pyramides.
Ce qui est le fun, c'est que les pyramides connues comme la pyramide de Khéops qu'on a étudié sous toutes ses coutures depuis sa découverte, il y en a encore qui font des recherches parce qu'ils pensent qu'il y a peut-être des places cachées, des compartiments qui n'ont pas encore été découverts, peut-être même des pièces qui n'ont pas été découvertes, qui seraient cachées, scellées complètement. J'ai vu un reportage, entre autres, qu'on utilisait une espèce d'auto-téléguidé avec une caméra dessus, mais tu sais, des robots téléguidés qu'on envoie dans des fissures pour essayer de voir est-ce que l'autre bord de la fissure, il y a quelque chose qu'on n'aurait pas découvert encore, des trésors peut-être qu'on avait scellés complètement puis qui n'étaient pas faits pour être découverts. Et au travers de tout ça, plus maintenant, je dirais, mais il n'y a pas si longtemps, peut-être une centaine d'années, quand on faisait ce type de recherche-là, on pensait que c'était dangereux d'éveiller les mauvais esprits, puis qu'il allait avoir des mauvais sorts de jeter sur les archéologues parce qu'il avait dérangé les esprits des Égyptiens. Il y avait plein de croyances comme ça qui étaient reliées aux pyramides aussi.
On n'a pas parlé des momies.
Oui, ça fait peur, ça.
Exact, non, c'est clair là, que c'est quoi, tout en camon, je ne sais pas trop, ça c'est une autre histoire, là, mais oui, effectivement, il y a les légendes, les mystères qui tournent autour de tout ça. Et il y a tout le côté richesse aussi. On peut penser à Indiana Jones.
Ben oui, c'est ça.
Trouver les trésors enfouis dans les tombeaux, dans les pyramides.
Les souverains se faisaient enterrer avec leurs serviteurs, avec leurs richesses, parce qu'ils amenaient ça dans l'autre vie, dans leur deuxième vie ou troisième vie ou peu importe. Ils se faisaient enterrer avec un paquet d'affaires. Il y en a qui se faisaient enterrer avec des chariots, avec des chevaux, avec leur armée, leur garde rapprochée. C'est comme bon. Le roi est mort, moi aussi m'a mourir, ça a l'air, parce qu'il veut m'amener avec lui. On faisait mourir des gens, là, les proches serviteurs et les proches protecteurs des souverains. On les enterrait dans ces tombeaux-là aussi. C'était particulier, puis tu parles des richesses, ben c'est ça, il les laissait pas à sa descendance. Non, t'as moi ça, je les amène.
Oh oui, moi je les garde, il va pouvoir continuer à triper avec toutes ces l'or qu'il a accumulé dans sa vie au paradis ou dans la forme là, d'au-delà l'époque. Et ça fait, il y a dans plusieurs cultures aussi, là, on peut penser aux Vikings, bref, il y a plusieurs cultures, énormément de cultures à l'époque qui faisaient ça. On enterrait les corps avec la richesse.
Avec leurs biens terrestres.
Non, c'est ça, c'est exactement ça.
Et ce qui fait que quand on trouve ces tombeaux-là, ben souvent, il y a une question de monétaire en Égypte. Bon, c'est un climat social qui est vraiment instable. Et on a un contrôle, une mainmise justement sur les découvertes archéologiques du côté de l'Égypte. On peut pas aller là en tant qu'archéologue amateur et dire « Oh, j'ai trouvé un trésor, moi le ramener chez nous » et ça marchera pas comme ça. Le gouvernement égyptien vous empêche de partir avec quoi que ce soit que vous allez découvrir dans le désert.
J'ai une petite désinformation supplémentaire. Ces gigantesques constructions de pierre ont excité l'imaginaire. La raison principale tient peut-être au fait que rarement dans l'histoire de l'humanité, les éléments ayant permis leur construction ne se réuniront à nouveau. Un pouvoir théocratique. Voilà, c'est ce que je voulais parler tantôt de la quatrième dynastie, le pourquoi on a comment réussi. Ouais. On l'a dit plus dans nos mots tantôt. On l'a ici, là, dans ma documentation, un pouvoir théocratique tout-puissant, un pays riche et prospère, une main-d'œuvre nombreuse, une administration très développée et un grand savoir empirique. Dans ces conditions, il est plus valorisant pour les civilisations qui contempleront ces merveilles de leur attribuer une origine extraordinaire, comme les extraterrestres, que d'admettre ses propres limites. Alors, c'est vraiment pour ça que c'est incompréhensible dans notre... C'est normal.
C'est difficile à comprendre pour nous parce que même aujourd'hui, ça serait extrêmement complexe de réussir à réaliser ça avec la technologie qu'on a. Alors là, on se compare désavantageusement à un peuple qui était là il y a 5000 ans et qui a réussi à faire ça, là, de dire il était peut-être meilleur que nous autres il y a 5000 ans, alors que nous, on veut se péter les bretelles puis dire c'était des imbéciles, on est bien meilleur qu'eux et que c'est pas le cas nécessairement parce qu'eux ont réussi à faire ça alors que pour nous, on va faire un immeuble particulier, très haut, bon, de quoi d'assez impressionnant. Oui. Mais dans 100 ans, 150 ans, cet immeuble-là va peut-être être porté à dire il n'est plus sécuritaire, on ne peut plus l'habiter, alors qu'eux, c'est encore là 5000 ans plus tard.
Ça fait 4500 ans. Et là, tu apportes un point incroyablement vrai, Jason. Je capote sur ce que tu veux dire. Parce que la plupart des bâtiments et l'infrastructure au Québec est construit pour que les édifices, le béton, la structure de béton, tiennent de 50 à 100 ans.
Oui, c'est ça. C'est la durée de vie de n'importe quelle construction moderne qu'on a autour. Regardez autour de vous, là. En principe, sa durée de vie, c'est 100 ans, maximum. Ça va aller plus loin. Dans certains cas, on va se rendre beaucoup plus loin parce qu'on va l'entretenir, on va le moderniser. Mais à la base, quand on le construit, c'est entre 50 et 100 ans. Et ça, c'est un fait d'ingénierie connu et accepté partout en Amérique du Nord. On construit quelque chose, si on le change pas, il va faire 100 ans maximum.
Alors, c'est ça, c'est pour ça qu'on refait nos viaducs au Québec. Et voilà. C'est quand même un qui a tombé à un moment donné.
Et oui, et des fois, c'est avant le 50 ans supposé de durée de vie. Bon, il y a des conditions météo, mais il y a un paquet de facteurs. Des fois, construction qui est aussi, des fois, un peu laissée à la légère, qui fait que ça ne dure pas très longtemps, alors qu'on regarde ces constructions-là. On commençait à s'affaiser, ils ont perdu de la hauteur et malgré ça, ils tiennent encore debout. Là.
Et ça va continuer, ils vont continuer à rester là probablement pour des millénaires encore. Oui. C'est incroyable, là. Ça me fait vraiment capoter ces histoires-là. On garde le sujet des pyramides de l'Amérique du Sud et les pyramides de la Chine pour d'autres dossiers bizarres. On reviendra cet hiver là, avec ces sujets-là.
Absolument.
Pour l'instant, les pyramides.
Ce qui est le fun avec le fait qu'il y a des pyramides en Asie, il y a des pyramides en Amérique, et il y en a d'autres là, ailleurs dans le monde, mais ça, c'est vraiment les coins où on a vu les plus impressionnantes ou les plus nombreuses. C'est encore une fois un argument qui revient souvent dans les gens qui sont soit conspirationnistes ou qui croient aux extraterrestres ou dire « ça se peut pas qu'en Amérique du Sud, ils savaient qu'en Égypte, ils faisaient des pyramides. Comment ça qu'ils ont fait des pyramides, eux autres aussi? » Mais là, on le voit qu'avec l'ingénierie, le développement de l'ingénierie en Égypte, il y a probablement un développement similaire qui s'est fait en Amérique du Sud. On a commencé avec des constructions à un étage. On a dit, hey, on pourrait en rajouter un deuxième, un troisième, un quatrième. Et ça l'a donné les pyramides en Amérique du Sud aussi, qui est une progression naturelle de l'ingénierie de l'époque. Alors, il n'y a rien de mystérieux là-dedans, finalement.
C'est exactement ça. Et on peut parler en Amérique du Sud, on peut penser aux Mayas, aux Aztèques, qui ont eu un pic.
Eux autres aussi.
C'est ça, la civilisation a atteint des sommets incroyables. Il y avait une prospérité, de bonnes conditions de vie même. On parle vraiment du moment où, bon, tout allait
bien. On a construit les différents... Il y a des villas gigantesques en Amérique du Sud. Il y a des pyramides gigantesques. Il y a des temples gigantesques qui ont été faits probablement dans une période très courte, encore une
fois.
Où c'était une civilisation qui était à son summum, qui était à son sommet, et que tout allait bien, puis on pouvait le faire.
L'Empire romain, l'Empire chinois, c'est tous des empires qui ont connu des hauts et des bas, mais ils ont tous connu à un moment donné dans leur histoire un moment où ça allait bien.
C'est
ils ont pu bâtir des choses incroyables.
L'opulence de l'époque avec le Colisée, entre autres.
Oui, bon, Parthénon.
Le Parthénon, des constructions complètement, quasiment farfelues tellement c'était, c'était opulent, mais on pouvait se le permettre. Après, on dit, ben oui, mais pourquoi après ils ont arrêté? Parce qu'après ça, ça s'est mis à aller moins bien socialement, économiquement. On a eu des guerres, on a eu qui ont fait qu'on n'a pas pu dire, bon, ben on prend les 50 prochaines années pour faire un bâtiment. On pouvait plus se le permettre. Mais il y a eu une période durant ces empires-là où on pouvait se permettre de faire ce genre de choses-là.
Alors, voilà!
Hey, c'était très intéressant.
Ben, merci.
On aime ça, les pyramides.
Ah, j'ai vraiment trippé. Moi, je l'avoue, là, j'ai un faible. On commence à le savoir, là. Pour tout ce qui est lieu mythique incroyable.
Ah oui, des constructions mythiques comme qui... Et c'est ça demande un effort, je te dirais, un effort d'humilité. Même là, pendant qu'on enregistre, ça me demande de l'humilité de dire il était peut-être mieux que nous autres dans ce temps-là. il avait peut-être compris quelque chose qu'on n'a pas nous autres encore, qu'on a perdu au fil des époques et qu'aujourd'hui, on fait des bâtiments... dans la prévision que ce bâtiment-là, on va finir par le jeter à terre puis le remplacer. Non. Alors qu'à cette époque-là, on pensait pas comme ça.
Non,
c'était peut-être mieux dans ce temps-là.
J'aime le film La Belle Verte, qui est un film français aussi. On salue nos amis français.
Ah oui, bonjour! Encore! C'est le fun. C'est le fun de dire ça. Allô à nos fans français! Bonjour!
La Belle Verte, c'est exactement ça. C'est une extraterrestre qui débarque sur Terre et sur la planète de La Belle Verte, les autres... Ils vivent 200 ans parce qu'ils passent leur temps à s'occuper de leur agriculture. Ils mangent super bien, ils s'entraînent, ils courent, ils font toutes sortes d'acrobaties. Mais un peu comme le néolithique, c'est prouvé pendant la construction du Stonehenge, on en parle, les historiens en parlent. Les gens vivaient de l'art, ils construisaient des paniers en tissu, en forme de... Ils passaient leur temps, leur quotidien, à construire des trucs artistiques, à s'occuper des champs, à s'occuper du blé, à s'occuper du bétail, à bâtir des petites maisons coquettes, là, chaleureuses, avec un bon petit feu, la famille. Ils passaient juste du temps.
Les valeurs n'étaient pas les mêmes.
Non, aujourd'hui, c'est beaucoup plus artificiel, je dirais.
Ouais.
On bâtit dans le luxe, là, On a le luxe, là, c'est la
satisfaction instantanée. On veut quelque chose, on le veut tout de suite. On va l'acheter à crédit. On va acheter de quoi qui. On le sait que dans 5 ans, ça sera plus fonctionnel, mais on le veut tout de suite.
C'est ça.
Et souvent, c'est ça, c'est qu'on se retrouve souvent à peut-être mettre nos efforts au mauvais endroit plutôt que justement à dire pourquoi pas construire nous-mêmes quelque chose qu'on peut mettre un meuble à la maison. Hey, je vais prendre le temps de le faire moi-même, alors que je peux maintenant en 3 clics le commander de quelque part en Asie et il va être chez moi livré dans 4 jours. Alors c'est beaucoup plus facile, on y va plus pour la facilité et la satisfaction instantanée, chose qui n'était pas le cas à l'époque. Il n'y avait pas de magasin.
C'est ça, exact. Puis à l'époque, peut-être venir là-dessus de mon bord, les gens pensaient pour les prochains milliers, centaines, milliers d'années. Aujourd'hui, on bâtit tout en fonction des prochaines élections, donc 4 ans plus tard.
Ouais, ben c'est
donc,
ça.
On fonctionne à shot de
prochain téléphone cellulaire qui va sortir.
Ah, c'est ça, c'est drôle. On fait toutes sortes de liens aujourd'hui. Ça fait réfléchir. Oui. On philosophe aujourd'hui. On philosophe
comme je dis, ça demande quand même une certaine part d'humilité d'admettre que à cette époque-là, il y a 5000 ans, on réussissait quand même avec très peu de moyens à faire des choses qu'on aurait de la difficulté à faire aujourd'hui, alors qu'on a tous les moyens technologiques qu'on a maintenant, on aurait quand même de la difficulté à reproduire certaines choses qui ont été faites à cette époque-là.
L'Antiquité, c'est fascinant, comme tu le dis, Jason. C'est une époque fascinante pour le développement de l'histoire de l'humanité. Tout plein d'ouvrages là-dessus, si vous voulez aller continuer à lire.
Oui, c'est facile de trouver de l'information, mais c'est le fun d'en discuter comme ça.
Ben oui, en bonne franquette.
Absolument, ça nous permet de d'élaborer sur certaines choses. Alors, merci beaucoup, Tristan.
Ben, plaisir. Vos commentaires sont les bienvenus. Si vous voulez réagir, là, écrivez-nous sur notre page Facebook ou en message privé, là, ça va nous faire plaisir de vous répondre.
Page Facebook, Dossier Bizarre, c'est pas dur à trouver. Et de plus en plus de gens, d'un peu partout dans la francophonie, justement, qui s'abonnent à la page Dossier Bizarre et qui nous envoient des petits messages, des suggestions, qui viennent répondre à nos sondages, qui simplement viennent s'amuser avec nous. Alors, vous êtes les bienvenus. Ça nous fait toujours plaisir d'interagir avec vous. C'est très stérile quand on est enfermé comme ça pour enregistrer, quand on commence à avoir des réactions des gens là, qui interagissent avec nous. C'est toujours intéressant de voir qu'il y a des humains de l'autre côté qui écoutent.
Oui, merci encore de nous suivre en passant.
Hey, un gros merci. Bye-bye tout le monde. L'émission Dossier Bizarre était une présentation de...
Le Bingo Express CLE, tous les mercredis à partir de 18h30 sur les ondes de CLE. Avec 2 500 $ à gagner à chaque semaine.